Bienvenue aux Apatrides Anonymes, édition du 25 janvier 2024, en direct des studios de Choc.ca à l'UQAM à Montréal. Donc, c'est Mathieu au microphone, en compagnie de Marie-Ève.
Salut Mathieu!
Bonsoir! Et de Simon.
Bonsoir!
Bonsoir! Donc, le trio d'enfer
Power
et là ce
trio.
Soir. Power Trio! Et là ce soir, pour vous parler évidemment d'enjeux. D'actualité, mais d'actualité internationale, nationale, locale, sur les enjeux d'immigration, de frontières, de racisme, de droits humains, de répression, d'abus et malheureusement toutes sortes de choses comme ça. Aujourd'hui, on va vous parler, entre autres, faut dire qu'il y a deux semaines, c'est notre émission Retour sur 2023 avec le quiz, avec les chiffres. Là, on continue avec les chiffres à l'international dans quelques minutes avec Marie-Ève, mais aussi on fait les perspectives nationales et internationales 2024 dans le courant de l'émission. En plus de vous parler aussi de différents enjeux d'immigration Québec-Canada, je vais vous faire aussi l'agenda antiraciste. Et il y aura donc aussi de la musique, entre autres La Fanfare pour Ariel Diba et Nouchou. Donc, voilà pour le programme de cette émission du 25 janvier. On commence à l'instant. Marie-Ève va nous parler aussi d'abus policiers et de profilage aussi au courant de l'émission. Je vais commencer pour introduire Marie-Ève au niveau des chiffres internationaux 2023. Je vais vous parler de l'Espagne, quand même un pays assez important dans les enjeux de migration en Europe. Donc, près de 57 000 migrants sont arrivés en Espagne en 2023, un bond de 82 % par rapport à l'année précédente. Le bond s'explique par l'afflux record enregistré dans l'archipel des Canaries avec 39 000 arrivées, on en a souvent parlé. Les exilés arrivés dans l'archipel provenaient en particulier du Maroc et du Sénégal, mais aussi de Gambie et de Guinée. L'Espagne connaît aussi une hausse des arrivées de migrants depuis les côtes nord-africaines. Depuis un an, plus de 15 000 personnes ont atteint le pays depuis l'Algérie ou le Maroc en Méditerranée. À l'inverse, le nombre de personnes entrées en franchissant les hautes clôtures des enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla a chuté. On parle de 1 200 migrants seulement en un an, une baisse d'environ 46 % par rapport à 2022. L'Espagne, qui n'est souvent qu'une étape pour ces migrants en provenance d'Afrique, est derrière l'Allemagne et la France, l'un des trois États de l'Union européenne ayant reçu le plus de demandes d'asile en 2022. Il faut dire aussi que l'armée marocaine travaille fort. Elle a annoncé qu'environ 87 000 migrants, principalement d'Afrique subsaharienne, ont été interceptés l'année dernière alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe. En 2002, c'était 70 000. Depuis le réchauffement des relations diplomatiques entre Rabat et Madrid en 2022, le Maroc a fait de la lutte contre l'immigration irrégulière une de ses priorités. Le pays a renforcé ses patrouilles en mer et sa vigilance aux abords des enclaves de Ceuta et Melilla. Sur les côtes, Rabat s'est engagé à intercepter les exilés susceptibles de prendre la mer et de les renvoyer dans le centre du pays, dans la région de Ouarzazate, loin des plages en plein désert. Ces derniers sont donc interpellés dans la rue, au travail ou à leur domicile et expulsés avant de partir pour les îles Canaries ou pour l'Espagne continentale. Sinon, dernier chiffre, en 2023, au moins 6600 exilés sont morts ou ont disparu en tentant de rejoindre l'Espagne par les trois corridors, d'après l'association Caminando Fronteras, un chiffre en hausse de 177 % par rapport à 2022. Aïe. Quand même 6000 exilés ou morts, c'est quand même impressionnant. Dernière chose, ça continue parce que dans la nuit du Nouvel An, plus de 1000 migrants en groupe ont
tenté... À Ceuta Melilla, je pense.
Voilà, j'y arrivais. Plus de 1000 migrants en groupe ont tenté... dans la nuit du Nouvel An, de passer à Melilla et Ceuta, comme ça avait déjà été dans le passé, mais ils n'ont pas réussi, ils ont à peu près tous été arrêtés. Donc, point chaud encore une fois, l'Espagne à travers ses différentes routes migratoires. Donc, Marie-Ève, je te cède la parole pour 2023 en chiffres au niveau international. On continue donc.
Oui, puis je vais continuer aussi avec des chiffres migratoires avec l'Union européenne, où les demandes d'asile atteignent un record là aussi jamais vu depuis 2016, imaginez-vous donc. On n'a pas encore le nombre total là, jusqu'au 31 décembre, mais on sait que du 1er janvier jusqu'à la fin octobre, l'Union européenne a enregistré plus de 900 000 demandes. Le mois d'octobre a été le plus élevé depuis 7 ans, avec 123 000 demandes d'asile en un mois seulement. On s'attend à ce que les chiffres pour l'ensemble de l'année franchissent le cap du million, puisque on le sait, là, tous les facteurs à l'origine des déplacements sont en augmentation. Mm-hmm. Guerre, violence armée, instabilité, autoritarisme et persécution et donc la répression qui s'entraîne. Pour le mois d'octobre, ce sont les ressortissants syriens qui arrivent en premier pour l'Union européenne avec 24 000 demandes déposées, soit 30 % de plus qu'à l'année passée. Suivent les Afghans, mais leur nombre est quand même moins élevé que ce qui avait été enregistré en 2022. En revanche, on assiste à une hausse importante des demandeurs d'asile en provenance de Turquie, soit près de 17 000 en octobre seulement, selon l'Agence de l'Union européenne pour l'asile. C'est le nombre de candidats à l'asile le plus élevé jamais enregistré, plus du double par rapport à 2022.
Pour la Turquie, hein, tu dis.
Ouais. Ouais. Autre chiffre notable, c'est que la Syrie et l'Afghanistan concentrent là, la majorité des mineurs isolés qui se retrouvent sur le continent européen. Là, on a les chiffres de septembre de Eurostat qui dénombraient un peu plus de 4 000 enfants ayant déposé une demande de protection. Près de 1 500 étaient des jeunes Syriens et près de 1 000 des jeunes Afghans. Les Pays-Bas et l'Allemagne sont les principaux pays d'accueil de ces mineurs non accompagnés. Mmh. Comme tu disais tantôt, Mathieu, l'Allemagne reste là de loin devant les autres États membres, le premier pays d'accueil de ces demandeurs. Ensuite, il y a l'Espagne et la France et ensuite l'Italie.
Évidemment.
Qui rassemblent à eux quatre, près des deux tiers des dossiers. Mais faut quand même rappeler que le nombre de demandes est loin de représenter la pression réelle mise sur les systèmes d'accueil de chaque pays, parce que ce qu'il faut regarder, c'est le ratio avec la population. Et par exemple, pour l'Allemagne, on compte seulement une demande d'asile déposée pour 2 500 habitants, même s'ils se retrouvent dans le top, tu sais, du
au
classement.
Premier rang, ouais.
Quant à l'Italie, où le gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni a mis en place, on le sait, là, des mesures très, très restrictives sur le plan d'immigration. Le nombre de migrants débarqués, soit près de 156 000, a augmenté de 50 % par rapport à l'année précédente. Ils sont pour la plupart originaires de Guinée, Côte d'Ivoire, Tunisie et Bangladesh. Mm-hmm. Les mineurs non accompagnés, eux, ont été un peu plus de 17 000. Et selon l'aveu même du ministère de l'Intérieur, Matteo Pintedossi.
T'as failli dire Salvini, hein?
Oui. toutes leurs mesures, en fait, là, restrictives, sont un échec.
Sont un échec, hein?
Mais il affirme que la collaboration avec la Tunisie et la Libye a tout de même permis de bloquer le départ vers l'Italie de plus de 121 000 candidates à l'asile.
Okay.
Je sais pas comment y arriver à ces chiffres-là. Je me tourne maintenant vers les Balkans, plus spécifiquement la Slovénie, où le nombre de migrants interpellés a quasiment doublé en 2023. On est passé à 60 000 contre environ 30 000 l'année précédente.
Mm-hmm.
La plupart sont arrivés en Slovénie, là, via la
Slovénie.
En Slovénie via la Croatie voisine, qui est entrée récemment dans l'espace Schengen.
Ouais, c'est vrai.
Environ 30 % des personnes étaient originaires d'Afghanistan, 15 % du Maroc, 9 % du Pakistan. Le nombre de citoyens et citoyennes russes a également doublé,
okay.
Passant à plus de près de 2000 à presque 3500. Presque toutes les personnes qui sont passées par la Slovénie ont émis le souhait de déposer une demande d'asile au pays, en Slovénie, avant de poursuivre leur chemin, soit vers l'ouest ou le nord de l'Europe. Je rappelle qu'au mois de juin, la Slovénie avait pris la décision de démanteler sa clôture anti-migrants le long de la frontière avec la Croatie, qui a été érigée en 2015. Selon le chef du gouvernement slovène Robert Golob, la clôture n'avait pas atteint son objectif, qui était évidemment de décourager les migrants qui voulaient franchir la frontière, mais c'était aussi pour des raisons humanitaires, parce que, d'après les associations, la barrière forçait les migrants à emprunter d'autres chemins en pleine nature qui étaient beaucoup plus dangereux.
Évidemment, oui. Donc, ça n'a pas marché. OK.
Non. Maintenant, on va se diriger vers l'Union européenne outre-mer, c'est-à-dire le département français de Mayotte, cet archipel de l'océan Indien situé entre Madagascar et la côte du Mozambique. On vous en a parlé là, quelquefois cette année en raison de l'opération Wambushu des autorités françaises pour démanteler des milliers d'habitations précaires. Eh bien, entre le 1er février et le 1er décembre 2023, près de 1 500 personnes originaires d'Afrique des Grands Lacs, Congo, Rwanda, Burundi, y ont déposé une demande d'asile. C'est un tiers de plus qu'en 2022. Mm-hmm. Il représentait 48 % des 3000 demandes d'asile déposées sur l'année. En 2022, c'était beaucoup moins, c'était 25 % des dossiers.
Okay.
La moitié, elle, était composée par des Comoriens,
des Comoriens ouais.
Et 21 % par des Malgaches. C'est un phénomène qui existe depuis une dizaine, qui est relativement nouveau quand même,
ouais.
Là, depuis une dizaine d'années, où après des milliers de kilomètres là, de cette route migratoire entre l'Afrique de l'Est et Mayotte, ben les migrants montent dans des cargos marchands depuis le port de Dar es Salaam à l'extrême-est de la Tanzanie. Ils en descendent au bout de quelques jours seulement, une fois leur navire arrivé sur les îles de l'archipel des Comores. Et de là, ils montent à bord de Kwasa Kwasa, ces petits bateaux
ouais,
de pêche,
ouais.
De pêche en bas, en bois, pour rejoindre Mayotte. Je vous parlais tantôt de l'augmentation du nombre de demandes d'asile en Union européenne en provenance de la Syrie. Eh bien, ça s'explique principalement par le conflit là, qui s'y poursuit depuis 2011,
mm-hmm.
qui a causé la mort de près de 4500 personnes en 2023.
Seulement en 2023,
oui. Oui, ouais, parce que depuis le début du conflit, c'est 500 000 de personnes
exact,
à peu près.
Ça, ouais.
Parmi les victimes figurent près de 2000 civils, qui incluent 241 femmes et 307 enfants, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Il faut dire aussi que... Israël a intensifié ses frappes en Syrie depuis l'attaque du Hamas là, le 7 octobre.
Mm-hmm.
Et donc, mais sans vraiment revendiquer clairement ces attaques, ces frappes-là.
Ouais.
Et le pays, donc Israël a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne permettrait pas à son ennemi juré, l'Iran, de détendre sa présence en Syrie, entre autres au moyen de milices là, ou de groupes armés comme le Hezbollah. Et je termine avec un triste chiffre, celui en Arabie Saoudite.
Oui, oui.
Qui, encore cette année, trône au sommet du trio de tête des pays qui exécutent le plus de condamnés à mort dans le monde,
ben oui.
C'est-à-dire avec la Chine et l'Iran. Au 31 décembre 2023, 170 condamnés à la peine capitale avaient été exécutés dans le royaume, contre 147 pour l'ensemble de l'année 2022. En 2022 aussi, on se rappelle, il y en avait eu 81 personnes exécutées en une seule journée.
Ah oui, c'est vrai.
Un record de, donc, 187 exécutions avait été enregistré en 2019. On est comme dans la moyenne. Les défenseurs des droits de la personne dénoncent régulièrement, évidemment, les exécutions, généralement par décapitation. Mais les autorités, les juges, je cite, « compatibles avec la charia et nécessaires pour maintenir l'ordre public ».
Oui, maintenir la famille au pouvoir, bien sûr.
Bien sûr. Alors, c'est ce qui clôt cette revue en chiffres.
Mais ce qu'on peut retenir aussi, Marie-Ève, c'est que les demandes des demandes de statut, les demandes d'asile sont en hausse à peu près partout.
Partout, hein. Partout,
ouais,
partout.
Donc,
partout.
Avec nos deux blocs, là. Merci
et
beaucoup.
Et c'est pas prêt de se résorber.
Oui, c'est ce qu'on peut dire. C'est moins qu'on peut se dire. Quelques notes de musique.
Oui, j'aimerais juste peut-être avant rebondir sur quelque chose. Tu disais qu'il y avait augmentation de réfugiés, de migrants russes à la Slovénie. Donc, moi, je vais investiguer là-dessus, voir quel chemin ils prennent, parce que soit qu'ils passent par la Turquie, la Géorgie, la mer Rouge, ou la mer Morte plutôt, la mer Noire, pardon.
La mer Morte.
En tout cas, ouais. Mais je vais enquêter là-dessus, ça m'intrigue beaucoup.
Parfait, Simon.
Bonne idée, Simon.
Donc, je vais continuer avec... Ben, on va aller un peu plus localement, mais au niveau canadien, québécois, au niveau des perspectives, en tout cas, certains enjeux à surveiller en 2024, des enjeux dont on vous parle souvent. En premier lieu, au Canada, l'année sera décisive pour la protection de l'enfance autochtone au Canada. Je vais commencer avec les enjeux autochtones, donc je ne l'ai pas précisé.
Ben oui.
Le Québec conteste la constitutionnalité de la loi fédérale, C-92, et la Cour suprême va se statuer sur cette loi dans les prochaines semaines. Après avoir également contesté la loi, le Manitoba et les territoires du Nord-Ouest se sont finalement rangés dans le camp d'Ottawa. Seuls le Québec et l'Alberta contestent toujours la loi devant la Cour suprême. En attendant la décision des juges, les communautés peuvent continuer de mettre sur pied leur propre service de protection de l'enfance en vertu de la loi qui a été adoptée en 2019 et qui est toujours valide. C'est ce qu'a fait entre autres le Conseil des Atikamekw d'Opitsiwan, premier gouvernement autochtone à devenir autonome pour la protection de la jeunesse, c'est au Québec. Quant aux Innus de Mashteuiach, leur communauté a officiellement amorcé les travaux de sa commission sur la protection de la jeunesse. Sur le même sujet, suite au jugement de la Cour fédérale de 40 milliards, toujours au niveau des
enfants. Sur la protection de l'enfance.
Exactement, on reste dans le même sujet. Il y a un 20 milliards qui va aux familles, aux enfants, mais il y a 20 milliards que le fédéral doit négocier pour réformer le système de protection de l'enfance et donner des sous aux communautés autochtones. Et des groupes des Premières Nations ont reproché à Ottawa de se traîner les pieds depuis plusieurs mois, craignant que l'accord final n'ait jamais lieu. Les négociations ont donc repris cette semaine après les sorties des groupes autochtones là-dessus. Fait qu'on va en entendre parler sûrement en 2024. L'affaire des gouvernements métis, Marie-Ève.
En Ontario, surtout, mais ailleurs aussi.
Le fédéral a créé une bataille juridique qui ne cesse de s'intensifier depuis que le controversé projet de loi C-53 a été adopté en deuxième lecture à l'unanimité et au Parlement en juin. Ce projet de loi fédéral enchâsserait dans la Constitution canadienne les droits des gouvernements métis dans trois provinces, Ontario, Alberta et Saskatchewan, ce qui soulève une vive opposition des Premières Nations. À ce titre, les Premières Nations de l'Ontario reprochent notamment à Ottawa de ne pas les consulter sur les revendications de la nation métisse de l'Ontario, dont elle nie toute légitimité.
Ouais.
Et là, ça va sûrement être adopté au printemps, parce que ça va être adopté au Parlement, puis après ça, c'est sanction royale, donc il n'y a pas vraiment de... Ça peut aller en cours après, là, mais ça risque d'être adopté assez rapidement. Ouais. Au niveau des Premières Nations des Prairies, qui demandent à Ottawa de réécrire le nouveau projet de loi sur l'assainissement de l'eau dans les communautés autochtones, les chefs des communautés du Manitoba, de l'Alberta et de la Saskatchewan accusent le fédéral de se détourner de ses responsabilités en la matière et de manquer de transparence. On parle ici du projet de loi C-61 qui a suscité diverses réactions lors de son dépôt le 11 décembre dernier, tout récemment,
c'est récent.
À la Chambre des communes. Donc, il n'est pas encore adopté.
C'est sur l'eau potable, quoi?
Oui, c'est sur l'accès à l'eau potable dans les communautés, qui paye, c'est quoi les normes, etc., qui est responsable.
C'est quoi les critiques?
Écoute, on pourra en parler. J'ai pas regardé en détail comme il faut. C'est assez récent.
À surveiller, donc.
À suivre. Merci, Marie-Ève. Tombe d'enfants autochtones. D'après le site de référence Voix vers la réconciliation, plus de 30 sites sont en cours de recherche dans les provinces canadiennes actuellement. Jusqu'ici, plus de 1900 tombes anonymes et sépultures potentielles ont été signalées, ce qui n'inclut pas les anomalies du sol détectées lors de recherches et qui sont en cours d'étude. Le fédéral réfléchit à la manière de lutter contre le négationnisme entourant l'existence des tombes anonymes autochtones, devrait avoir un projet de loi là-dessus. Et Ottawa devrait aussi dévoiler un monument national rendant hommage aux victimes et aux survivants des pensionnats. Ça, c'était dans les recommandations de la Commission Vérité et Réconciliation. Au Québec, fin novembre, les gardiens du territoire de Wimotachi et Québec ont signé une entente cadre au sujet de la foresterie. Les Autochtones réclament plus d'autonomie concernant le développement de leur territoire ancestral. Mais il y a encore des barrages parce qu'il y a des groupes qui ne sont pas d'accord dans la région de la Naudière et de la Mauricie. Que va-t-il advenir de ce long conflit entre le gouvernement, les Atikamekw et la foresterie? À suivre cette année encore une fois, parce que là, il y a une entente, mais c'est loin d'être réglé. Un autre sujet, en janvier 2020, la communauté Anishinaabe de Lac-Barrière a intenté une poursuite contre Québec, demandant à la Cour d'invalider certaines dispositions de la loi sur les mines. Les Anishinaabe souhaitent que la Cour reconnaisse l'obligation de consultation du gouvernement avant qu'ils n'accordent des titres miniers sur leur territoire ancestraux, les fameux claims. Au Yukon, des groupes autochtones ont gagné dans une cause similaire. Donc, les deux parties au Québec seront devant la Cour supérieure le mois prochain, en février.
Si je te dis, les tribunaux vont se...
Oui, il faut qu'il y engage du monde.
On se remplit,
oui. Québec ne cesse de gagner du temps pour dévoiler son plan de protection du caribou forestier, une espèce grandement menacée. L'animal a une importance considérable pour plusieurs nations autochtones. Aucune échéance précise n'a été fixée pour le moment par Ottawa, qui met de la pression sur le gouvernement du Québec pour qu'il règle la situation. Plusieurs communautés et nations ont d'ailleurs fortement critiqué l'approche du gouvernement caquiste concernant sa stratégie de protection du caribou et de son habitat naturel. Quelles seront les suites des fouilles au Royal Victoria ici à Montréal? Les résultats des premières recherches, notamment pratiquées avec un radar pénétrant, seront grandement attendus dans les prochaines semaines. Sinon, le gouvernement du Québec signera-t-il enfin l'entente Pétapan, 9 mois après la date butoir du 31 mars, qui avait été proposée par Québec, les communautés autochtones Innu, de même que le fédéral, attendent toujours que la province respecte ses engagements en vue de la signature du traité. Et sinon, dernier sujet autochtone, en suspens depuis 2011, les négociations visant à créer un gouvernement régional autonome au Nunavik reprennent cette année. Un accord a été signé en ce sens en décembre entre le gouvernement du Québec et la société Makivik, qui représente les Inuits du nord du Québec. Donc, ça, c'est à suivre bientôt. Il y a eu des ententes sur le Nunavut récemment, mais là, c'est devenu...
C'est pas juste
au Québec. Et immigration, j'ai quelques petits sujets. Les délais qui explosent en matière de recoupement familial au Québec vont rester dans l'actualité dans les prochains mois. Après la mise en demeure envoyée en décembre à la ministre québécoise de l'Immigration, Christine Fréchette, et à son homologue fédéral, Mark Miller, un recours judiciaire est en préparation et pourrait être déposé à la Cour fédérale bientôt. Le groupe Québec réunifié est à l'origine de la démarche. À l'heure actuelle, près de 40 000 dossiers sont en attente. Ça prend 12 mois dans le reste du Canada, 42 mois au Québec, parce que le Québec ne veut pas avoir plus que 10 000 admissions par année. Même Mark Miller a proposé en décembre au Québec de quand même accepter les dossiers fédéraux pour les aider. La ministre a dit non, on reste à 10 000 par année. Sinon, ben, le Québec prolonge de 6 mois son entente avec l'Agence des services frontaliers en matière de détention d'immigrants jusqu'au 30 juin 2024. Ça devait finir le 31 décembre.
Ouais.
En vertu de cette entente, le Québec accepte d'incarcérer dans ses prisons provinciales des personnes détenues pour des raisons administratives en rapport avec le dossier d'immigration. On en a souvent parlé aussi. Un scoop. Ottawa prépare un large programme pour régulariser une partie des centaines de milliers de sans-papiers, a indiqué en décembre Mark Miller.
Non.
Il prévoit présenter un plan au printemps. Il y a du
ça
en décembre au Globe and Mail.
Ça fait 3 ans qu'il dit ça.
Oui. Et dernier point, des organismes se préparent à une arrivée...
Scoop.
Oui, c'est une blague. Hein. On en a tellement parlé.
C'est un scoop, mais réchauffé.
Oui, oui, c'est comme un running gag. Et en terminant, les organismes se préparent à une arrivée massive d'Ukrainiens avant l'expiration le 31 mars du programme de visa d'urgence. Ottawa a délivré plus de 930 000 visas depuis mars 2002, mais il y en a seulement 210 000 qui sont arrivés depuis.
Et là, depuis mars 2022, tu veux dire?
2022, pardon, okay, ouais. En lien avec la guerre, évidemment. Sur ce nombre, donc, seulement 210 000 sont arrivés, mais là, il y en a 90 000 qui feraient des démarches actuellement pour arriver d'ici le 31 mars. Fait que les organismes se tiennent prêts à accueillir tout ce monde-là. On s'entend que c'est des visas d'urgence temporaire, mais c'est bon jusqu'à la fin de la guerre. Cinq ans ou fin de la guerre. Fait que c'est un peu ça. Fait que voilà pour immigration en jeu autochtone au niveau de sujets à suivre et de perspectives. Donc, on va passer, si je ne me trompe pas, en musique, mesdames et messieurs. Je vais retrouver ma feuille que je trouve pas. Ah oui, elle est là! On va y aller avec un band qu'on aime les trois, je pense, Nouchou. C'est leur quatrième album, il est éponyme, il a été lancé en octobre dernier. C'est dans le palmarès local de Choc actuellement. C'est un 4 soirs montréalais avec entre autres Lydia Champagne et Navet Confit. Et ils vont en concert le 9 février au bar Les Enfants du Rock sur Mont-Royal à Montréal. Dans le cadre du Tavern Tone, ils vont jouer avec le groupe mexicain Los Viejos, les vieux. Donc on écoute Mon sac coloré de Nouchou. We'll be right back. Toujours sur les ondes de choc.ca, l'émission Les Apatrides Anonymes,
oui,
mesdames
ça.
Et messieurs. On vient d'entendre le groupe québécois Nouchou, la pièce Mon sac coloré dans le palmarès de Choc. Je vais poursuivre avec quelques petites informations sur les enjeux, certains enjeux d'immigration, mais Simon va faire un bloc plus important ensuite sur ces mêmes enjeux, n'est-ce pas, Simon?
Toujours plus important.
Toujours plus consistant, merci. Moi, j'ai deux nouvelles. Une nouvelle vraiment triste, une famille d'origine mexicaine, la famille Cuapatecan Hernandez, qui habitait Plessisville depuis plusieurs années, a été expulsée le 28 décembre dernier. Selon les membres de cette famille, un retour au Mexique représentait une menace pour leur sécurité. Les restaurateurs de métier affirmaient que leur sécurité était compromise par des menaces des cartels de la drogue. Attendez, je vais juste mettre ma page comme il faut. Selon la section d'appel des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugiés, les demandeurs n'ont pas suffisamment démontré que leur sécurité est menacée. Ça faisait depuis 2019 que la famille est au Canada. C'était deux adultes, deux enfants. Information qui était dans l'article qui m'a quand même surpris. En 2021, les bureaux de députés partout au Canada avaient traité 15 000 demandes d'aide au service d'immigration pour des citoyens qui avaient des problèmes avec le ministère.
Sur une base discrétionnaire, là?
C'est les gens qui font des démarches auprès de leurs députés.
Ouais, ouais.
Mais en 2023, ce nombre est passé à 41 000 personnes. Ce sont donc 41 000 citoyens qui ont éprouvé des difficultés avec le ministère et qui n'ont pas eu d'autre choix, entre guillemets, que de se tourner vers les bureaux de députés. C'est quand même assez impressionnant.
Dans le cas de cette famille, tout le monde les aimait, leur employeur, les politiciens locaux,
exactement.
La communauté, les voisins, tout le monde. Là,
oui, les médias de l'Estrie en ont parlé et du Centre du Québec en ont parlé pendant plusieurs mois. Même le député conservateur les a aidés à faire des démarches.
Ouais.
Luc Berthold, oui, c'est ça. Fait que mon autre petite partie, c'est un peu en lien. Le stress provoqué par un déménagement dans un nouveau pays et le décalage souvent immense entre ce que les immigrants attendent de leur vie ici et la réalité peuvent conduire à la dépression, à de la frustration, à une perte d'estime de soi, estiment plusieurs spécialistes. Selon une étude publiée en décembre par Recherche en santé mentale Canada, les nouveaux Canadiens sont presque deux fois plus susceptibles d'exprimer des inquiétudes au sujet de leur capacité à survivre, à nourrir leur famille, que les personnes nées ici. L'insécurité alimentaire et l'isolement, loin du réseau de soutien de la famille et des amis, ont été associés à une plus grande incidence de problèmes de santé mentale. Il faut parfois des années aux immigrants avant de retrouver une position professionnelle similaire à celle qu'ils avaient auparavant dans leur pays d'origine. Si les nouveaux arrivants croient encore au compte de fées du Canada comme terre d'opportunité, l'étude montre l'apparition d'une désillusion régulière. Près de 15% des immigrants quittent le Canada dans les 15 ans suivant l'obtention de leur résidence permanente. Et donc, plusieurs autres données comme ça, une étude assez intéressante. On n'est pas très surpris des résultats, je dirais, là. Mais c'est quand même bien d'avoir des chiffres puis de voir que c'est quand même difficile, même pour ceux qui sont acceptés, les bras ouverts, supposément, avec un emploi, sont des travailleurs qualifiés, des réfugiés économiques, tu sais.
Non, c'est jamais facile.
C'est jamais facile, puis que ce soit à différents niveaux, mais entre autres pour l'intégration à l'emploi et pour la vie sociale, entre autres, et au niveau économique. Ça s'appelle Recherche en santé mentale Canada. C'est un organisme qui a une revue aussi.
Intéressant, quand même.
Fait que je te passe le témoin, Simon.
Plutôt incontournable dans l'actualité. On a parlé beaucoup d'immigration dans les médias suite à la fameuse lettre ouverte du gouvernement Legault.
Oui.
Où la ministre Fréchette a adressé au gouvernement Trudeau qui le supplie de mettre un frein aux demandes d'asile. C'est assez rare quand même, même dans l'histoire récente, que les différents paliers communiquent par médias interposés comme ça, là, avec une lettre ouverte. Là. C'est quand même
lettre qui a eu une fuite dans les médias, là, c'est ça, là? Ouais.
Ah, OK, une fuite.
Oui, bien calculé. Ouais.
C'est ça, une fuite d'eau. Donc, le ton très alarmiste, on répète souvent point de rupture, on dit que le Québec étouffe, mais en même temps, on admet du bout des lèvres que la fermeture du chemin Roxham, qui était réclamée depuis des années, ça n'a pas changé grand-chose.
Exact, ouais.
Marie-Ève nous faisait remarquer en réunion que le propos et le ton très dramatique s'apparente de plus en plus à ce qu'on entend en Europe de la part de politiciens en Espagne, en Grèce, en Italie. De politiciens pas toujours au centre de l'échiquier politique. On parle dans cette lettre-là d'injustice par rapport au poids démographique du Québec comparé aux autres provinces. On veut des compensations complètes du fédéral. Des transferts de demandeurs d'asile vers l'Atlantique et les provinces de l'Ouest, puisque l'Ontario recevrait, entre guillemets, sa juste part de migrants en proportion de sa population. On parle aussi de pression indue sur les services publics. On apprenait récemment qu'une hausse de 30 % des demandes d'aide sociale serait principalement attribuable à la cohorte des demandeurs d'asile des dernières années. Bref, on regarde ça seulement en termes de coûts, de statistiques, puis on va lui donner à Mme Fréchette. Elle est très statisticienne et froide. Oui. Elle maîtrise bien son message. Elle est très habile dans ses communications. Donc, ça coûterait tant en soins de santé, en hébergement, en bureaucratie. Mais elle ne parle jamais des retombées ou de tout le travail, souvent informel ou via des agences, que cette main-d'œuvre abordable et exploitable apporte au Québec. Ça se calcule probablement en milliards par année. Donc, sans compter que des pans entiers de l'économie et des services publics, surtout en santé, et s'effondrerait probablement si on expulsait tout le monde demain matin. Jamais non plus on parle de ce que ça peut avoir de positif sur le plus long terme. Donc, une bonne chose quand même, ça permet à Legault et certains de ses ministres d'admettre qu'il y a une crise du logement, parce que sinon, on n'en parlerait pas au gouvernement québécois. Par contre, c'est dommage de présenter ça comme si les migrants étaient directement responsables de tous nos problèmes, ce qui est complètement démagogique. Donc, on oublie de mentionner les décennies d'austérité et de désinvestissement dans les services publics. Je sais pas si on peut appeler ça la déréglementation dans le monde du logement aussi, mais c'est...
Oui, le libre-marché sans
contrainte. Sans contrôle, sans contrainte, c'est ça. Ouais. Donc, c'est de la pure CAQ, diabolisation des migrants, populisme, danger pour la culture québécoise. Ça revient encore, évidemment. Approximation choisie avec soin. Tout ça en vantant la part des étudiants étrangers, mais en souhaitant quand même une diminution assez importante de leur nombre. Donc, c'est un peu confus à ce niveau-là. Évidemment, la CAQ ne souhaite pas diminuer le nombre de travailleurs temporaires pour ne pas nuire à certains secteurs économiques. Les travailleurs temporaires qui sont toujours mystérieusement absents de leurs projections catastrophes.
Pourtant, ils sont nombreux, hein? Oui.
Ben, c'est en centaines de milliers.
Oh oui, tout à fait, au Québec, ouais.
Il y a Guillaume Clich-Rivard de Québec solidaire et spécialiste en immigration qui a publié cette semaine une lettre appelant au calme pour qu'on puisse avoir une discussion saine, sérieuse sur ces sujets qui sont fort complexes et qu'on lâche un peu les effets de toge, l'émotivité et le cherry-picking des seuls chiffres qui viennent un peu...
confirmer notre discours, là.
Oui, c'est ça, qui viennent dans le sens de notre agenda politique. Exactement. Finalement. Donc, je salue son geste parce que ça s'en va vraiment dans toutes les directions. Je ne sais pas si on a parlé tantôt, Paul Saint-Pierre Plamondon, avec ses projections qu'il veut revoir à la baisse, c'est le Parti québécois, c'est le parti qui a les cibles d'immigration les plus basses actuellement.
J'en ai parlé il y a deux semaines, c'était ma citation raciste, c'était mon...
Oui, mais il veut encore baisser davantage.
Oui, oui, c'est okay. Ça, exactement.
Bon,
ouais.
Parfait. Donc, on a assez parlé de lui, je pense. Le fédéral n'a pas tellement réagi à ce genre de petite tempête politico-médiatique au Québec, et M. Clich-Rivard déplore aussi ce manque de réactivité et d'écoute de la part du fédéral. Une écoute qu'on pourrait qualifier de sélective, avec quelques mesures envisagées qui seraient très ciblées, sans changement en profondeur de la part de Justin Trudeau et de Mark Miller, par rapport aux demandes des provinces en immigration. Donc, manque d'écoute qui n'aiderait pas à assainir le débat. En parlant de Mark Miller, sur un autre sujet, le programme d'accueil spécial de réfugiés à Gaza, c'est assez absurde. Il a dû se défendre début janvier du fait que si le Canada reçoit ses réfugiés palestiniens ou gazaouis, ce n'est pas main dans la main avec Netanyahou pour participer à l'effort de génocide du gouvernement israélien en contribuant à vider la bande de Gaza pour faire place nette. Il faut dire que le chiffre de dérisoire de 1000 permis temporaires qui seront accordés et qui chiffre qui n'a toujours pas été révisé à la hausse, donc c'est clairement pas ça qui va contribuer à des déplacements massifs de population. C'est plus l'appui diplomatique aux politiques d'Israël qui contribue au génocide, je pense.
Ben oui, tout à fait.
Somme toute, c'est une crainte qui, qu'autant Gazaouis réfugiés que Gazaouis sur place ou Palestiniens partout dans le territoire palestinien, le fait d'abandonner la terre natale en grand nombre et le fait de ne pas y retourner aussi, que finalement, ben, ça pourrait faire perdre aussi des plumes à Gaza et contribuer à ces déplacements massifs de population. Donc, des parties de territoire qui finalement seraient livrées à Israël, vidées de leurs habitants, c'est ça. Donc, beaucoup de Palestiniens souhaitent que les retours soient planifiés, qu'il y ait des programmes aussi, donc un accueil qui soit, oui, temporaire. Enfin, si les gens souhaitent que ce soit temporaire, mais que si souhaité aussi, les programmes prévoient des retours.
Oh oui, ben un peu comme avec les Ukrainiens. C'est un peu
ça. Pour que le territoire puisse continuer d'être occupé. Bien, pas occupé par les,
les gens. Habité par les gens qui l'habitent.
De manière légitime. Donc, voilà. Oui. La semaine passée, il y a des avocats qui ont critiqué le fédéral sur ses contrôles de sécurité et les vérifications d'antécédents des candidats au permis de séjour, qui sont à un niveau de détail jugé inhabituel et beaucoup trop invasif par rapport à ce qui est normalement exigé des demandeurs d'asile des autres pays.
Okay.
On demande aux candidats gazaouis de fournir tous les passeports qu'ils ont eus dans leur vie, tous leurs comptes de réseaux sociaux, des détails sur leurs cicatrices et autres marques sur le corps, et des informations précises sur les personnes de leur entourage, proches ou éloignées.
Donc, tout ça pour 1000 places, hein? Oui.
Ouais,
donc... Puis en plus, c'est un concours que les gens doivent appliquer pour leurs proches. C'est des proches qui peuvent venir, là, de gens qui sont déjà ici.
Oui.
Puis ils doivent appliquer dans une espèce de le plus rapide là, qui va appliquer, va l'avoir. Puis c'est, ouais, c'est...
Et démontrer qu'on a l'argent aussi pour subvenir aux besoins. Donc, puis, tous des documents, des exigences, des informations qui sont parfois impossibles à obtenir dans un contexte de bombardement massif et de crise humanitaire extrême et qui laissent présumer que quiconque provient de Gaza est un terroriste potentiel. Tu parlais de santé mentale, d'estime de soi tantôt.
Ben oui.
On entre un peu là-dedans. Donc, si t'es... je me reprends. Donc, t'es une victime de barbarie, t'as perdu des membres, des proches, ta maison, mais on te traite comme un coupable.
Exactement.
Maintenant, une nouvelle un peu plus réjouissante dans le contexte de l'autre guerre qui occupe toute l'attention médiatique, celle en Ukraine. Une militante russe anti-guerre très active et volubile sur les réseaux sociaux, Maria Kartasheva, qui, après un premier refus, a finalement réussi à obtenir la citoyenneté canadienne le 9 janvier dernier. Sa demande avait d'abord été bloquée en raison d'une condamnation par Moscou pour désinformation, qui était justement reliée à son militantisme anti-guerre et contre le régime de Poutine.
Mm-hmm.
Elle avait été accusée par les procureurs russes pour deux articles qu'elle avait publiés alors qu'elle vivait déjà au Canada, et ça avait suffi à Immigration Canada pour la classer comme criminelle, alors qu'elle est plutôt une dissidente politique. Et la manière que ça s'est passé, c'est assez particulier. Madame Kartasheva était en pleine cérémonie de remise de citoyenneté. Elle était sur le point de prêter allégeance à la reine à l'époque. Et il y a dû avoir une note de service qui est parvenue aux officiants à la toute dernière minute. Ils ont décidé de suspendre la cérémonie. Là, depuis ce temps-là, son avocat a travaillé fort. Il a réussi à faire corriger son dossier d'immigration et démontrer que les accusations contre elle provenaient de tribunaux qui font l'objet de sanctions de la part du Canada pour des violations des droits de la personne. Alors, vive la bureaucratie et félicitations à Mme Kartasheva. La prochaine fois, j'aimerais vous parler du cas de Anna Karen Vasquez Flores qui est décédée dans l'État de New York et les pratiques très douteuses du passeur qui le...
Ah. Garde-nous ça pour la prochaine fois.
Qui lui a chargé 2 500 $ et qui s'annonce sur TikTok encore aujourd'hui, paraît-il.
Parfait. Fait qu'on s'en parle bientôt. Tu avais beaucoup de stock, Simon. Merci pour ce bloc Immigration Québec-Canada. On y va avec quelques notes de musique. De retour à ma compagnie dans le grand studio. Simon, de retour à la maison. Non, pour ceux qui veulent visualiser notre dynamique. Donc, on va passer, on va rester Québec-Canada, Marie-Ève. On va parler de profilage, d'abus, de la police et ce genre de joyeux sujet.
Oui, parce que ça fait quand même un bout de temps. Je trouvais qu'on n'en a pas parlé.
On a moins parlé, hein?
Oui, ouais, non, c'est ça. Eh bien, pas plus tard que le lendemain de Noël, s'est révélé... particulièrement difficile pour un citoyen noir de Val-d'Or, pour Orphée Oteyami. L'intervention policière dont il a fait l'objet par la SQ de la ville dans la soirée du 26 décembre constitue bel et bien un cas de profilage racial.
Mm-hmm.
J'explique ce qui s'est passé. Les policiers l'ont intercepté alors qu'il était au volant de sa voiture. Une fois sorti de son véhicule, les flics lui ont demandé de se mettre à genoux, de se coucher au sol, sur le ventre, dans la neige, et l'ont menotté pendant une dizaine de minutes sans rien lui expliquer. Il y a une partie de la scène qui a été captée par vidéo...
amateur?
Ouais, par des témoins. Puis la vidéo montre que des armes étaient braquées sur lui au moment où il a été menotté. C'est seulement une fois dans la voiture de patrouille qu'un agent lui a expliqué que les policiers avaient reçu un appel disant qu'il y avait un homme noir possiblement armé sur la 4e avenue.
À Val-d'Or, ça?
Oui.
Okay.
Les policiers sur place, qui étaient répartis dans 3 véhicules différents, auraient libéré Orphée Oteyami après avoir inspecté son véhicule et consulté ses pièces d'identité.
Uh-huh.
Orphée Oteyami raconte s'être présenté au poste de la SQ à Val-d'Or pour relater son arrestation et porter plainte.
Mmh.
Les agents rencontrés l'auraient, selon lui, encouragé à renoncer et n'ont pas pris sa plainte. Un agent lui a simplement transmis sa carte avec son numéro de téléphone.
Okay.
On sous-estime souvent les traumatismes que ce type d'arrestation arbitraire peut causer. Orphée Oteyami s'est vu prescrire un arrêt de travail de 3 semaines par un médecin. Je cite M. Oteyami, Depuis que c'est arrivé, j'ai vraiment peur de voir la police. Je suis traumatisée. Quand je les vois, j'ai l'impression qu'ils vont m'arrêter encore et me pointer leurs armes. Je suis encore sous le choc.
C'est normal. Hein?
Monsieur Otayami reconnaît que les policiers lui ont présenté des excuses après sa libération, mais il estime que ce geste, qu'il salue et apprécie, n'est pas suffisant. Il dit avoir contacté des cabinets d'avocats pour examiner là, les recours à sa disposition.
Okay.
Je rappelle, s'il le faut vraiment, que presque tous les corps policiers au pays, tant provinciaux que municipaux, se défendent de faire du profilage racial, d'autant qu'aucun ne collige vraiment de données sur l'origine ou la couleur de peau des personnes impliquées dans les interventions policières, à l'exception de deux provinces. L'Ontario, où depuis janvier 2020, les policiers doivent signaler les données liées à l'origine ethnique lors de certaines interactions, et la Nouvelle-Écosse, où la police d'Halifax collige ces données depuis des années.
Oui.
Mais c'est seulement en 2017, là, que, après une enquête de CBC, qu'une partie de ces données-là avait été dévoilée publiquement. Mais là, roulement de tambour,
oui.
La GRC a annoncé au début du mois le lancement d'un projet pilote de collecte de données sur l'origine ethnique lors de visites de contrôle de bien-être, d'arrestation et de recours à la force. Ça va commencer à Whitehorse et à Wood Buffalo en Alberta.
C'est là qu'il y a le plus de personnes. Ouais.
Et à Thompson au Manitoba. Et ça va se poursuivre par la suite en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse. Dans son communiqué, la GRC explique vouloir cerner les différences de résultats de l'action policière dans les communautés autochtones noires et racisées, ainsi que mieux comprendre la nature et l'étendue du racisme systémique et son incidence aussi sur la sécurité des communautés. Les données vont être recueillies pendant un an avant que les conclusions soient rendues publiques sous forme de résumé.
Ça va être long. Hein?
Je pense que ça va être un peu édulcoré. Je termine en vous parlant du fameux BEI, le Bureau des enquêtes indépendantes, chargé d'enquêter sur la police lorsqu'une personne autre qu'un policier en service est tué ou grièvement blessé lors d'une opération. C'est que la Cour d'appel du Québec a confirmé une décision d'un tribunal inférieur selon lequel la famille de Corey Kevin Selick, qui a été tué par la police de Montréal en 2017 lors d'une intervention, a subi un préjudice lorsque le BEI a publié un communiqué de presse biaisé. Je vous explique. Il y a un juge de première instance qui avait tranché en faveur de la famille en 2021 et a accordé 30 000 $ en dommages et intérêts aux parents et aux frères de M. Selick.
Oui.
Le gouvernement provincial a fait appel de cette décision-là, arguant que le BEI n'avait rien fait de mal et que même si ça avait été le cas, ses fautes n'auraient pas causé de préjudice à la famille. La Cour d'appel vient donc de rejeter là, ces deux arguments-là et le juge du tribunal de première instance la Cour d'appel dit aussi que le juge du tribunal de première instance pouvait raisonnablement conclure que le BEI a commis une faute en publiant un communiqué qui dénote un manque d'impartialité. Concrètement. Ce qui est reproché au BEI, c'est d'avoir publié, vous l'avez compris, un communiqué de presse dans lequel présente certains faits en retenant que la version policière des événements.
Ben oui, comme d'habitude.
C'est ça. Et qui était complètement pas la même qu'évidemment celle des parents de M. Selick.
De la famille, oui.
Le juge de première instance a conclu à l'existence d'un lien de causalité entre la publication du communiqué et l'atteinte à l'honneur, à la détresse psychologique, à l'anxiété, à la perte de jouissance de la vie et à l'humiliation ressentie par la famille.
Donc, pour l'instant, il va y avoir 30 000 $ mais ils peuvent contester encore jusqu'en Cour suprême, quoi, c'est
ouais,
ça?
Oui, ils pourraient, mais là, rendu là, je pense pas que...
Le bureau des enquêtes est insignifiable, Marielle?
Oui, c'est ouais, okay.
Indécente.
Indécente. Merci beaucoup pour ces suivis, ces nouvelles. On va passer à notre deuxième pièce de l'émission. Il s'agit de Ariel Diba, la pièce Black Magic, auteure, compositrice et interprète d'origine camerounaise basée en France. C'est son premier EP, premier single, entre guillemets, qui est sorti en décembre dernier. On parle de New Soul, Hip Hop, Afro, Gospel, Ariel Diba.
They say a singer cannot rap or say unless she is black. I'm the child of Badu, Mrs. Helen Simone. Have you ever wondered why we see black as magic? Cause we are wonders and together we're magic. Tell a friend to tell a friend that we need our soldiers. The motherland is crying cause her babies are dying. 2020 was rough, but this decade is ours. May we keep the focus when they all try to fuck us. Tell a friend to tell a friend that we need our soldiers. Let's get back together what the lean has
talking. Remember Haiti and what the ancestors did? 1804, they beat the French army.
That's black magic. No chicken, not to sing in Europa. You think the ancestors are kept in golden museums? Leave them all the dolls and the treasure they've stolen. Tell a friend to tell a friend that we need our soldiers. We are our parents' dreams and our brothers' keepers. We tend to forget it after centuries of labor. But here we are, ready to shine our light. Tell a friend to tell a friend that we need our soldiers. I'm the Professor Diva calling all of my mutants. Have you ever wondered why the color's black? 'Cause we are wonders and together we're magic. That's the black man. Revive the black magic. This is for you and me and all of our allies. It's a case of emergency. Let's revive the black magic.
Toujours aux Apatrides Anonymes, l'artiste Ariel Diba, la pièce Black Magic, vous auriez compris. Très bon texte, bien engagé et très bon vidéo aussi. Allez voir ça, ça vaut la peine, c'est tout nouveau. Je vais poursuivre avec Simon, qui va rester dans l'international, qui va nous parler des perspectives 2024 avec peut-être un petit croche sur les élections. Hein,
qui vont quelques élections qui s'en viennent. Donc, voilà, ouais. 6 minutes pour vous prédire 2024 au niveau international.
Écoute, fais
donc,
un bout, Simon.
Ça va être plutôt sommaire. Je vais faire plutôt une genre de liste de ce qu'on va surveiller, ce qui aura un impact sur les migrations. Pas de grande analyse et c'est pas exhaustif parce que des situations imprévues, des embrasements soudains, des catastrophes, ça peut arriver partout, n'importe quand.
Ben oui.
On va s'intéresser à la survie ou non de certains accords bilatéraux sur la sous-traitance de rétention des demandeurs dans le tiers, dans des tiers pays. Évidemment, l'accord Royaume-Uni-Rwanda qui semble sur le point de mourir après plusieurs camouflets judiciaires. Donc, l'accord est pas mort, mais il est pas fort, donc à suivre. On va regarder avec quels autres pays le Royaume-Uni va chercher à signer les ententes pour entasser des migrants le plus loin possible de son royaume de princesses et de chevaliers. Mm-hmm. On va regarder ce qui se passe entre les accords actuels, entre l'Espagne et le Maroc, entre les Pays-Bas et le Maroc aussi. Ça vient tout juste d'être conclu cette semaine. Aussi, après l'Inde et l'Autriche en décembre, il y a une nouvelle entente sur l'immigration Inde-Italie. Presque en même temps, l'Italie toujours a signé un accord avec l'Albanie.
Ouais.
Il y a l'Allemagne à surveiller qui est actuellement en négociation pour des accords migratoires avec 6 pays. Géorgie, Moldavie, Kenya, Colombie, Kirghizistan et Ouzbékistan.
Oh là là.
Évidemment, il y a des régions déjà très complexes qu'on va continuer de surveiller. Bien sûr, le Proche-Orient, où de jour en jour, on assiste à une certaine escalade régionale. Beaucoup de craintes sur un élargissement du conflit en 2024. L'Ukraine, bien sûr, dont les opérations sont de moins en moins au sol et de plus en plus en mer et dans le ciel.
Mm-hmm.
D'autres régions européennes où il y a des signes de tension, notamment à proximité de la Russie et ses anciens satellites, dont Biélorussie, Pologne, ça persiste. et la Russie elle-même avec la Finlande, nouvellement membre de l'OTAN en 2023. La Suède, ça devrait être membre de l'OTAN bientôt. La Turquie vient de lever son veto. Il reste la Hongrie qui fait du blocage.
On en a parlé aujourd'hui dans les nouvelles,
Toujours en Europe, on va surveiller le nettoyage social appréhendé à Paris en prévision des Olympiques avec des impacts non négligeables sur les migrants qui souhaitent soit s'établir dans la région parisienne ou y transiter. Ou qui sont dans des campements de fortune. L'État et la mairie font tout actuellement pour déplacer massivement vers la province ou l'arrière-pays ou vers le pays d'origine.
Oui, c'est ça.
On continue aussi de surveiller l'Iran et sa révolution toujours fortement réprimée qui n'est plus vraiment sur les écrans radars des médias généralistes. C'est plus via la diaspora et les réseaux sociaux qu'on arrive maintenant à avoir des nouvelles. On va regarder les conflits qui s'éternisent. Il y en a plein. Il y a le Soudan, le Congo, le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie au sujet du Haut-Karabakh, le Myanmar, tous des conflits pour lesquels il n'y a pas de résolution prévisible à court terme. Ou en Éthiopie, par exemple, où des accords de cessez-le-feu ont été conclus mais demeurent très précaires. Ou encore le Yémen, la Libye, la Syrie, où les combats sont pratiquement terminés, mais on reste pour l'instant sans processus de paix qui a été signé, là, qu'il soit officiel ou durable. En Afrique, il faudra voir si on va assister à d'autres coups d'État dans les anciennes colonies françaises, surtout en Afrique de l'Ouest. Il y a ce sentiment anti-français, souvent pro-russe, qui continue de se répandre en Afrique francophone. Mais avec le groupe Wagner qui est en pleine débandade, la dynamique pourrait peut-être changer en 2024. On apprenait par exemple récemment que la Centrafrique cherchait à diversifier ses partenaires de sécurité pour larguer le groupe Wagner et aller vers des agences de sécurité privées américaines et ou européennes.
Ah, wow!
Ce qui ne sera pas mieux. Donc, c'est ça. On parle beaucoup d'effritement graduel, mais accentué des institutions internationales, le Conseil de sécurité, le Programme alimentaire mondial, le Conseil, le financement, l'appui de ces des grandes puissances à ces institutions qui devraient continuer de s'éroder, donc rendre de plus en plus difficile la résolution des conflits. C'est une marotte de l'extrême droite. On voit, il y a une députée de Poliev qui a parrainé une pétition il y a 2-3 semaines pour sortir le Canada de l'ONU.
Bien oui, bien oui.
Autre dossier à surveiller, les combats en mer Rouge, la situation intérieure à Haïti, les relations Chine-États-Unis, évidemment les présidentielles à venir à Washington, qu'on va partiellement couvrir, mais surtout sous des angles un peu moins abordés que dans les médias généralistes. Là, on ne fera pas des résultats de chaque primaire.
Non, s'il te plaît.
Il y a des élections prévues à Taïwan en 2024 qui seront déterminantes pour la région et plus largement pour les relations Chine-Occident. Et pour les droits de la personne à Taïwan, si ce sont les pro-Beijing qui prennent le pouvoir, ça pourrait donner ce qui s'est produit à Hong Kong dans les dernières années, donc des reculs démocratiques assez importants. Ce sera la plus grosse année électorale de l'histoire, paraît-il. Donc, je vous donne en vrac les pays où les impacts seront probablement les plus importants. On attache nos tuques. 2 milliards d'adultes concernés. Mexique, Venezuela, Algérie, Biélorussie, Pakistan, Bangladesh, Indonésie et des élections au Parlement européen, entre autres. Il y aura aussi des élections en Russie et en Iran où, par contre, on risque de pas trop être surpris des résultats. Élections prévues aussi au Burkina Faso, je crois le premier pays parmi les coups d'État récents au Sahel où, à moindre virement de dernière minute, la junte tient sa promesse de tenir des élections.
Okay.
Mais c'est prévu seulement en juillet, donc on verra.
Okay.
Finalement, je conclue là-dessus. On va aussi surveiller des gouvernements récemment élus, Pologne, Pays-Bas, Argentine. Mathieu voulait qu'on parle aussi du Guatemala, qui est plongé dans une saga politique pas possible. On regarde ça dans les prochaines semaines.
Exactement.
En termes statistiques, je termine avec ça. La plus grande élection, c'est l'Inde, 814 millions d'électeurs concernés. Et la plus petite, c'est Tuvalu, archipel menacé par la montée des eaux dans le Pacifique Sud, environ 8000 électeurs concernés et 16 sièges à combler.
Ah, ben c'est un petit arrondissement, ça.
c'est grand comme Beaconsfield.
Ouh, c'était étourdissant, Simon, ton tour du monde, quand même.
Oui, je t'avais
dit. En 6 minutes. Donc, ben merci. On va approfondir plusieurs de ces sujets-là dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc, on passe à l'agenda. Je vais commencer avec un podcast, un peu comme notre émission, mais un autre style. l'obligation de quitter le territoire français, OQTF, très connu en France au niveau administratif. Donc, le titre du podcast est OQTF, l'outil d'une politique d'expulsion française. Dans un contexte d'atteinte sans précédent aux droits des personnes étrangères, la CIMAD présente à travers une nouvelle saison de podcasts des récits de personnes dont la présence en France est considérée comme indésirable par l'État. Il y a plusieurs épisodes, c'est sur lacimad.org. Assez intéressant, donc à écouter comme podcast, c'est sorti, ça a commencé à l'automne dernier. Deux pétitions justement, Simon, en lien avec Israël, une pétition fédérale, embargo sur les armes à destination d'Israël, ben pas c'est au fédéral, c'est pas le gouvernement fédéral qui l'a, qui l'apparaît, c'est la porte-parole du NPD en matière d'affaires étrangères, Heather McPherson, qui l'apparaît, donc c'est sur le site du gouvernement du Canada actuellement, mais si vous voulez aller voir plus d'informations et trouver le lien, c'est sur le site de Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient, dont on vous parle souvent. Autre pétition au niveau provincial sur le site de l'Assemblée nationale, annulation de l'ouverture d'un bureau du Québec en Israël, parce que c'est toujours dans les plans de Legault et de Biron. Donc, allez signer cette pétition si vous voulez aussi. Au niveau rassemblement, ben, Fête de la Libération 2024 de Solidarité sans frontières, ça se passe le 27 janvier au CTTI. Sur l'avenue Van Horn. Venez célébrer nos victoires et renouveler notre engagement à lutter contre les frontières et les prisons. Il s'agit de la deuxième édition de la Fête de la Libération. La première avait eu lieu lors du Nouvel An 2019 et fut un véritable succès. Nous souhaitons célébrer la libération récente et moins récente de personnes emprisonnées dans les prisons pour migrants, dont celle de Laval. C'est un peu ça de la libération. Et célébrer évidemment les luttes en cours. Côté événement aussi, la commémoration du 7e anniversaire du massacre de la mosquée du Centre islamique, culturel islamique de Québec. Ça fait déjà 7 ans. Ça a lieu le 29 janvier de 14 à 16 heures au Métroparc. Et vous dire aussi qu'il y a une manifestation vigile sur l'heure du midi ici à l'UQAM le 29 dans le pavillon Judith Jasmin. Et la vigile au Métroparc s'est organisée dans le cadre de la semaine de la sensibilisation musulmane. Un webinaire qui s'appelle « Rendre visibles les processus discriminatoires ». C'est le 31 janvier à 10 heures en ligne seulement, malheureusement, organisé par l'Observatoire des profilages, qui est basé ici à l'UQAM. Intersectionnalité versus vulnérabilisation, c'est la première réflexion. La reconnaissance du passé colonial, l'accès à la justice pour les personnes autochtones en milieu urbain et hommes et personnes queer qui pratiquent le travail du sexe. Donc, on fait le tour assez général des différentes oppressions. Donc, ça, c'est le 31 janvier, donc en ligne. Retenez Observatoire des profilages. Et je termine avec une expo qui se finit donc au mois de mars, le 10 mars, au Musée McCord, ici à Montréal, qui s'appelle Wampum, parole de diplomatie. Rapidement, vous dire que les Wampum ont été au 17e et 18e siècle au cœur de la création d'alliances entre Européens et nations autochtones. Cette fonction est une fois de plus remplie à l'occasion d'une collaboration inédite entre le Musée du Quai Branly à Paris et le Musée McCord à Montréal. Des objets aujourd'hui rares, plus de 40 sont rassemblés pour l'expo, ce qui est probablement le plus grand nombre au même endroit depuis des siècles, on souligne dans la présentation. Et donc, ça a été des objets de grande valeur dans les échanges diplomatiques jusqu'à devenir indispensable à toute alliance. Mais c'est des très beaux objets, style collier, mais il y a beaucoup d'histoires autour de ça, beaucoup d'histoires d'Amérique du Nord et ici, Québec-Canada. Donc, au Musée McCord, les Wampum jusqu'au 10 mars 2024. Oh là là, c'est la fin de l'émission tranquillement. Il nous reste une dizaine de minutes avec une longue pièce que j'espère vous allez apprécier. Avant de partir, j'avais une petite nouvelle, un petit suivi que je voulais faire. Simon t'a parlé de Javier Milei.
Ben oui, le lion anarcho-capitaliste.
capitaliste libertaire. Donc, le gouvernement argentin réclame 60 millions de pesos, soit environ 73 000 $, aux organisateurs du premier rassemblement contre sa politique d'austérité qui a eu lieu le 20 décembre dernier. Le coût de ces dépenses englobe la mobilisation de 4 forces de sécurité. Police fédérale, police municipale, police aéroportuaire et gendarmerie. C'est Il bon. Manque juste police académie puis le réseau.
Police montée.
Les manifestants
étaient... Police
Les manifestants étaient encadrés par un important dispositif de sécurité qui a fait dire à un des organisateurs, ça me rappelle la dictature. Hein. Ça commence bien son mandat. Début janvier, la justice a suspendu provisoirement des mesures relatives aux droits du travail, estimant qu'elle ne justifiait pas de passer hors du processus législatif normal. Le gouvernement de Milley va faire appel. Ça fait partie du fameux décret de nécessité et d'urgence, ou le méga décret, qui comprend plein de trucs, dont des trucs sur le travail qui ont été suspendus. Et donc, il y a 300 normes dans ce méga projet qui vont être qui modifient, entre autres, le travail, les prix et loyers, la privatisation, les exportations, les retraites, etc., etc. Dernière chose là-dessus, une suspension sur la forme davantage que sur le fond pour l'instant, mais le recours en justice est un des trois axes de lutte déjà mis en place par les syndicats et l'opposition et l'ensemble des mouvements sociaux, avec la rue, évidemment, et aussi le Parlement, qui n'est pas acquis au président. La CGT argentine a convoqué une grève générale et mobilisation hier, le 24 janvier. Il y a eu beaucoup de monde dans les rues de l'Argentine. Et c'est la grève la plus précoce contre un gouvernement en 40 ans de démocratie, moins d'un mois et demi après son arrivée au pouvoir. Donc, il veut
et
en
plus... Et croyez-moi, ça fait mal.
Ça fait mal. Et 73 000 $ de la manif, quand tu mobilises plein de flics pour rien en plus, c'est fantastique. Hein?
C'est n'importe
tu
quoi.
Tu négocies pas le montant avant. Fait que voilà, je voulais finir avec un petit suivi, parce que Simon avait parlé de Javier Milei il y a deux semaines.
Oui, et, ben, il va avoir le temps. Il y a quatre ans pour détruire les institutions argentines. Il va réussir à détruire quelques-unes.
Il faut regarder le premier six mois surtout. C'est ça, ouais. C'est là que c'est important. Donc, c'est la fin de l'émission des Apatrides Anonymes. Donc, j'espère que vous avez apprécié notre contenu et notre animation et nos sujets. Merci, Marie-Ève.
Merci à toi, Mathieu, pour ton animation.
Ça fait plaisir. Merci, Simon.
Ben, merci à vous deux, à tout le monde qui nous écoute aussi.
Ben oui, tout à fait. Et dans deux semaines, le 8 février, on aura une émission où il y aura peut-être pas de perspectives et de chiffres. Je pense qu'on a fait
peut-être
le tour.
Il y
a beaucoup de choses. Hein? C'est le fun de faire des bilans et des perspectives.
Un dernier petit quiz,
un dernier petit coup là, la semaine prochaine, donc dans deux semaines. Donc, je vous rappelle que vous pouvez nous réécouter sur notre site internet apatridesanonymes.info pour toutes les émissions, sur notre page sur le site de choc.ca aussi. On est diffusé aussi sur Radio Victoria les mercredis et dimanches dans l'Ouest canadien. Il faut dire qu'on a une page FB sans les articles québécois et canadiens des médias, mais on a beaucoup d'informations sur les mobilisations et ce qui se passe aussi dans d'autres pays. Et vous dire que notre courriel est apatridesanonymes@resiste.ca. Donc, on va terminer avec une longue pièce d'un collectif, d'une grosse belle gang québécoise qui s'appelle La Fanfare Pourpour. C'est leur quatrième album qui est sorti en octobre dernier qui s'appelle Ce que nous sommes. Ça existe depuis une vingtaine d'années. C'est plein de musiciens québécois, plein de musiciennes québécoises. Lou Babin, Jean de Rome, Guido Delfabreau, Julie Houle, Pierre Tanguy, etc., etc. Et donc, la pièce s'appelle Valse à Lou. Ça a été lancé au Lion d'Or, mais on a manqué le spectacle. Ils ne jouent pas souvent. Si jamais ils passent par chez vous, c'est impressionnant, son genre 35, là, faire une fanfare un peu alternative.
Oui, puis en plus, les shows qu'ils ont fait pour cet album-là avaient des danseurs, danseuses aussi.
Ah, j'ai manqué, j'avais pas vu ça. Donc, ouais. Voilà. Fait que La Fanfare pour la pièce Valse à Lou. À bientôt tout le monde. Bonne soirée.
Bonne soirée.